ton nom soit exalté. Que ton nom soit sanctifié dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre esprit. Que ta présence, l'Éternel Père, prenne de la largeur et de la profondeur en nous. Et que ce matin, Seigneur, puisse t'ouvrir encore nos oreilles, afin que nous puissions écouter le message, la parole qui vient de toi. Nous rendons gloire à toi, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Entendre la voix de Dieu. Voilà une aspiration, le désir de toute personne qui entretient une relation personnelle avec Dieu. Qui n'aspire pas à entendre la voix de Dieu du milieu de nous ce matin? Et pourtant, la Bible a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Entendre la voix de Dieu semble pour beaucoup un exercice difficile. Alors si je compare la relation d'un papa avec son fils, et que le fils dit que mes papas me parlent, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Ah oui, c'est sérieux. Imaginez quel genre de relation vous entretenez avec votre père dont vous ne comprenez pas le langage. Et ce que je dis est très important parce que ça annonce le travail que nous allons faire l'année prochaine, que nous avons déjà commencé à faire. C'est que lorsqu'on est de nouveau en tant qu'enfant de Dieu, on est dans un autre royaume. On est dans un autre espace qui est celui de Dieu, où il y a des codes de langage, où le mot qu'on emploie a une signification différente quand on est dans le royaume du Père. Et donc, le premier apprentissage qu'un parent qui voudrait entretenir une relation avec son enfant qui vient de naître doit primer, c'est de lui apprendre la langue pour établir une communication. Je me dis que s'il est question que je reprenne mon ministère au début, la première des choses que je ferais, c'est de commencer à enseigner aux chrétiens quel est le langage de Dieu. Vous savez, Jésus, quand il vient, il parle beaucoup en paraboles. Et chaque expression a une signification particulière. Quand Dieu parle de l'eau dans la parole, nous, nous comprenons l'eau comme quoi ? Liquide, qui lave, qui purifie. Mais dans le royaume de Dieu, ce mot a plusieurs sens. Parce que les réalités de Dieu sont très profondes, que des mots humains ne peuvent pas le décrire. Et parfois, un mot humain que nous utilisons peut avoir une signification très profonde, diverse et variée dans le royaume du Père. Quand Dieu vous parle du pain que nous devons manger, vous penseriez à quoi? Il y a plusieurs sens à cela. D'où il est important pour nous de comprendre le langage du Père. Et c'est ce que nous allons essayer de le faire. Pour que notre relation avec Dieu soit une relation fructueuse, qui puisse nous libérer de notre limite humaine. Car nous avons été formatés par notre éducation. Nous avons été formatés par notre instruction. Nous avons été formatés par nos expériences, parfois, qui semblent prendre le dessus par rapport à la parole de Dieu. Or, devant tout ça, nous devons mettre à terre pour laisser privilégier la parole du Seigneur. D'où l'importance de l'écoute. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce qu'il a dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Tiens, je viens d'employer encore un mot. Entendre, écouter. Quelle est la différence? Permettez-moi de lire ce texte de base, les deux textes de base, dans Jacques chapitre 1, verset 22, et dans Romains chapitre 10, verset 17. Et donnez-moi un instant pour vous expliquer les choses en détail. Que votre impatience ne s'impose pas à moi comme une dictature pour m'obliger à aller rapidement, où je vais mâcher mes mots et après on va me faire les remarques par la suite. Mais donnez-moi le temps d'aller dans les profondeurs des choses de Dieu pour vous expliquer. Jacques, chapitre 1, verset 22. pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par les faux raisonnements. Deuxième texte, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17, mais un peu en haut, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Esaïe le dit, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Or, on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Entendre. Entendre, c'est percevoir avec l'ouïe. O-U-I-E. C'est une capacité physique qui nous permet d'écouter un bruit, un son. Et quand on écoute une mélodie de Mozart, ça, c'est entendre. Elle interpelle le cerveau, le côté intellectuel du cerveau. C'est la capacité de percevoir un son et d'écouter une voix. Quand un enfant entend la voix de sa maman ou de son père, elle se calme parce qu'il sait, c'est maman, et ça, c'est papa. Il fait partie de ces cinq sens que Dieu nous a donnés pour nous mettre en relation avec notre environnement. En revanche, écouter fait intervenir le mot entendre. Mais il va beaucoup plus loin. C'est prêter attention de manière spécifique pour déterminer l'instrument qui émet le son. Hier, il y avait des feux d'artifice, mais en même temps, il y a des pétards. Et quand il y a des feux d'artifice, je savais que c'était des feux d'artifice. Et quand c'est des pétards, je sais que c'est des pétards. Quand on écoute, on sait de qui vient la chose, ça vient de Dieu ou ça vient de l'autre côté. L'écoute, c'est la vie. Les petits chaperons, pour n'avoir pas bien écouté la voix, et ils se sont fait tous manger. Parce que quelqu'un a imité la voix de papa et de maman, mais ils n'ont pas eu l'intelligence de faire le lien. Et par inadvertance, ils ont ouvert la porte à celui qu'il ne fallait pas. Et donc Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'adresse à Israël, il dit, écoute, Israël, écoute. Et Dieu l'a répété plus de 80 fois dans la parole du Seigneur. Et si vous, écoutez, vous ajoutez le terme entendre, alors là, on tombe dans les 500. Mais si vous ajoutez l'expression prêter l'oreille, on tombe dans les 2000. Et si la Bible emploie de telles expressions, c'est qu'il y a une importance. Vous savez, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. La guerre que nous voyons là. Toute guerre physique avec des armes prend son origine dans le domaine de l'esprit. Et la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, car la guerre dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une guerre humaine, elle est spirituelle. C'est que c'est les entités dans le ciel qui déclenchent la guerre. Ces entités, c'est deux royaumes. Le royaume de Dieu par la vérité et l'amour, et le royaume du diable par le mensonge et la haine. Ces deux royaumes rentrent en confrontation dans le ciel. Ah, vous me direz, mais l'être humain, il est quoi dans tout ça? Mais comme c'est un combat qui est spirituel, les esprits, on ne les voit pas. Ils cherchent des contenants, des récipients humains pour les utiliser à leur fin. Et donc, vous verrez, ceux qui vont recevoir la semence de la vérité, ils vont avoir l'amour du Seigneur et ils se battront. Pas pour détruire, parce que Jésus ne se bat pas pour détruire, Jésus se bat pour reconstruire. Par contre, le diable de l'autre côté, lui, il se bat. Le voleur est venu pour voler et détruire. Et donc, l'arme avec laquelle chaque entité s'engage dans cette bataille, il n'y a qu'un seul mot. C'est l'arme de la parole. La parole. Au commencement était la parole et la parole était... Il n'a pas dit qu'au commencement, la parole était avec le diable. Le diable a été une créature de la parole. Donc, il ne peut pas dépasser la parole. Il ne peut pas dominer la parole. Il n'a qu'une seule chose à faire. Quoi ? Chercher à pervertir la parole par ce que nous appelons communément le mensonge. Le diable ment depuis le commencement. Jésus le traite comme père du mensonge. Et dans quel camp nous pouvons être engagés dans cette bataille ? Ça dépend du camp de celui dont nous recevons la parole. Si c'est la parole du mensonge, vous savez dans quel camp on est ? Or, Jésus nous appelle à recevoir la parole de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais on ne devient pas libre simplement quand nous écoutons simplement la vérité. Il faut y obéir. Et quand la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, le terme étymologique est insisté. Continuez à écouter, continuez à entendre. Tu entends tous les jours. Tous les jours. La foi ne germe pas d'un coup. Les gens pensent qu'en écoutant la parole de Dieu, ça y est, la foi vient et puis il va rester. Non, la foi est une semence. La parole vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la semence de la parole, qui est la semence de la vérité. Et lorsque les semer dans notre cœur, se déclenchent trois batailles. Matthieu chapitre 13, dont on aura l'occasion d'en parler. La semence qui tombe sur quatre types de terrain. Soit le premier sur les pierres et la chaleur étouffe, soit le long du chemin où les oiseaux enlèvent, c'est l'esprit de l'oubli, qui est systématique. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous faire la morale. Non, non, pas du tout mon envie. Mais c'est le toucher de doigt une réalité. On retient peu la parole du Seigneur. Et on ne retient même pas. L'esprit de l'oubli est systématique dans le milieu chrétien. C'est comme si vous allez dans une plantation des pommes, vous êtes munis d'un panier troué. Et toutes les pommes que vous allez ramasser, elles seront remplies ? Pas du tout. Vous me direz que, mes pasteurs, il y a 33 720 versets dans la Bible. Comment le retenir ? Vous n'avez pas besoin de retenir les 33 000. Quelques versets clés suffisent. Attachez-vous à ça. Des cinq pierres, il y a une seule pierre qui a renversé Goliath. Donc des paroles de Dieu, une seule parole que nous avons serrée dans notre cœur, il suffit. Mais c'est bien de s'alimenter de la parole du Seigneur. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, notre pensée est alignée sur Dieu. Nous comprenons le langage du Père. Ah mais tu crois que tu écoutes Dieu ? Vous vous trompez, on peut écouter Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, on écoutait Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, la Bible a dit que dans l'Ancien Testament, j'ai parlé à vos pères par qui ? Par les prophètes et au travers des songes. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, je vous parlerai par le Fils, la parole. Mais comme nous sommes spécifiques, chacun est différent à sa manière. Même deux gouttes de neige ne sont pas identiques. Quand vous prenez deux individus, même s'ils sont jumeaux, leur empreinte digitale les différencie. C'est que nous sommes spécifiques. Et Dieu va utiliser notre spécificité pour nous communiquer une pensée qui vient de lui. Quel est son désir ? Le désir du Père, c'est que vous captez le message qu'il veut vous envoyer. Ce message est destiné à vous sauver. Et Dieu ne peut pas faire autrement. Voilà pourquoi il dit, écoutez. Et la suite de l'histoire nous le montre, la suite des versets. Qu'est-ce qui arrive ? Le premier met l'accent sur une écoute, mais une écoute qui est spirituellement inactive. cette écoute n'est pas suivie d'une pratique active de la vérité. Car c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous libère. Sinon, cette parole que nous entendons reste enfermée dans le domaine de l'intellect. Et ça devient une parole humaine. Et beaucoup nous en sommes à ce point. La parole de Dieu est raisonnée, parce que le terme grec signifie dialogue. On raisonne avec la parole de Dieu, on le ramène au niveau humain et on le met dans notre cœur. Conséquence, la parole ne transforme pas. C'est comme si nous ramenions Dieu à notre hauteur. Elle ne transforme pas. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui s'est regardé dans un miroir. Alors ça, c'est, nos sœurs aiment beaucoup. Elles sont très amies avec les miroirs. Pourquoi ? Alors, moi aussi d'ailleurs. Parfois quand je m'aperçois que ma barbe est plus longue que l'autre, hop, un coup de ciseau pour essayer d'arranger. Ça, c'est le miroir qui renvoie cette image. Mais une personne qui se mire dans la parole de Dieu et qui oublie comment il était avant, il n'y a pas un autre mot. Pourquoi vous avez regardé le miroir si ce n'est pas vous faire des ajustements qui s'imposent? Il s'en va, il oublie ce qu'il était. Ainsi, la portée vitale de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, est réduite au niveau de l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, elle est corrompue par le péché, même si elle est brillante, cette intelligence. Le second passage souligne une écoute active. Pourquoi ? Parce que la suite de chacun des passages nous le montre. C'est l'écoute qui fait germer la foi, et la foi chrétienne. Je parle de la foi chrétienne là. La vie est pleine de foi, et la foi, c'est des conventions. Si je n'ai pas foi en roulant sur la route à droite, que celui qui vient en face de moi roule à droite, alors là, ça va être compliqué. Mais cette foi, il prend sa source dans la parole de Dieu. Et c'est celle-là qui nous rend heureux. Voilà pourquoi Dieu s'adresse à Israël, mon peuple. Comment faire? Alors, je veux toucher trois points rapidement. Quand Dieu parle à Israël, il veut qu'Israël écoute. Point 1. Qu'il mette en pratique. Point 2. Qu'il vive. Point 3. Et qu'il possède l'héritage que Dieu leur a donné. Premièrement, l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu nous permet de nous soumettre entièrement à Dieu. Pas à 90%, mais entièrement. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous pouvons être transformés, mais où ? De l'intérieur. Parce que la transformation opérée par notre ennemi, le diable, n'est qu'une transformation extérieure, le schéma. Et le diable, il est excellent dans l'art de pervertir ou d'embellir l'extérieur. Ah oui, il a fait ça avec les Sadducéens et les pharisiens. Le verdict est tombé de la bouche de Jésus. Il leur a dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous vous efforcez de nettoyer l'extérieur, mais l'intérieur est plein d'eux. Mais Jésus, quand il transforme, la parole rentre en nous comme un vaccin. Il désinfecte tout ce qu'il y a à l'intérieur et il commence maintenant à faire apparaître le changement vers l'extérieur. Donc la transformation de Jésus, c'est la transformation de la nature, de notre nature, notre essence. La parole est allée nous chercher là où nous étions avant, c'est-à-dire dans le sein de Dieu. Or, le diable, lui, il va s'employer à embellir l'extérieur en te donnant l'impression que tout va bien. Il se déguise en ange de lumière, trompe tout le monde. Voilà ce que la parole de Dieu fait de nous. Et il fait de nous des enfants de Dieu, qui ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Vous aurez la prédication. Le point 2, c'est la mise en pratique. Donne donc à tes enfants un cœur qui écoute, c'est-à-dire un cœur intelligent qui comprenne, pour permettre de discerner le bien d'avec le mal. Parce que Ésaïe chapitre 5, verset 20 dit que nous sommes dans une période où les gens passeront ce qui est bien pour mal et ce qui est mal pour bien. Ils prendront ce qui est doux pour amer et ce qui est amer pour doux. Ils vont prendre le jour pour la nuit. C'est pour ça que ceux qui sont des champions du péché, ils aiment tellement la nuit parce que les choses qu'ils font ne sont pas recommandables et ils attendent la nuit pour libérer leurs actions. Donc nous sommes dans cette phase-là. Les gens ne savent pas où se trouve le côté droit ni le côté gauche. Ils ne savent pas là où se trouve le nord ni le sud. D'abord, il y a une expression française qui dit « perdre le nord ». Quand perdre le nord y est, ça suppose que au lieu d'aller à Paris, vous prenez la direction de Marseille et vous dépensez tout, autoroute, machin, et vous arrivez au port de Marseille, vous vous rendez compte que ce n'est pas Paris. Ah. Par un cœur qui écoute, Dieu nous conduit. Il nous donne l'intelligence qui vient du ciel. Et c'est l'état de cœur qui s'aligne sur Dieu, au point que même notre pensée est en accord avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, Éphésiens chapitre 3, verset 20, que Dieu est capable de nous exaucer infiniment au-delà de ce que nous lui demandons, même pensons. C'est que Dieu peut nous exaucer sans avoir formulé la phrase. Tout ce qui est dans notre tête, le Seigneur le sait. Et ça, ce n'est que la parole de Dieu que nous avons écoutée qui peut soulever dans notre cœur cette relation de connexion avec le Père. Il y a des gens comme ça qui ont commencé avec Dieu, qui écoutent bien Dieu, puis après ils ont mal terminé. C'est le cas de Saül. Je ne vais pas le développer aujourd'hui. C'est le cas de Salomon. Seigneur, donne à ton serviteur un cœur sage pour gouverner le peuple. Mais Salomon a bien commencé. Et il a terminé celui qui est le summum de la trahison dans le livre des rois. Vivre de la parole. Ah, vivre de la parole prend un sens allégorique à ce niveau. Jésus dit que je suis le pain de vie. Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Cela veut dire quoi? Ici, dans manger ma chair et boire mon sang, il y a déjà en arrière-plan l'idée de mort. Si nous ne mourions pas à nous-mêmes, à la parole de Dieu, il est impossible de vivre pleinement la vie de Jésus. Et vivre la vie de Jésus, manger sa chair et boire son sang, c'est mettre ma vie sur le sacrifice, sur la croix. Sur la croix. Renoncer à sa vie. Mourir à Christ. Alors quand Jésus expliquait ça, après avoir fait le miracle des pains et des poissons, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils ont dit, ouf, celui-là, il pense à notre ventre, le nommé roi va résoudre nos problèmes. Et ils sont en train de le chercher, alors que Jésus était de l'autre côté en train de prier le Père. Ils l'ont cherché de l'autre côté de la rivière, ils ne l'ont pas trouvé. Quelqu'un était venu pour dire que tiens, votre Jésus que vous cherchez là, il est de l'autre côté là-bas. Tout le monde court derrière lui. Bateau, pirogue, il y a des gens qui sont pas là en nage parce que Jésus est de l'autre côté. Ils sont venus trouver Jésus, il a dit que Jésus, nous te cherchons. Jésus les a regardés en fait, il a dit que vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas pour écouter la parole. Vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain et des poissons, n'est-ce pas? Mais travaillez non seulement pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui demeure éternellement. Mais moi, je suis cette nourriture. Je suis le pain descendu du ciel que le Père a envoyé pour vous. Mangez de ce pain et vous vivrez. Les Juifs disent, mais regarde-moi, c'est ce qu'il est en train de raconter lui là. Il aurait dit, mais tu ne connais pas notre père Abraham. Jésus va encore leur en mettre une couche. Il a dit que vos pères ont mangé du pain dans le désert. Là. Où est-ce qu'ils sont? Sont-ils vivants? Ah, ils sont tous morts. Mais mangez de ma chair et buvez de mon sang, vous aurez la vie éternelle. Allez, les Juifs commencent à se disputer entre eux. Il dit, mais regarde-moi celui-là. Il vient de naître, il n'a même pas 30 ans, 33 ans, et il parle d'Abraham, il veut que nous mangions sa chair et boire son sang. Mais ça ne va pas ou quoi? Et Jésus va en mettre encore une autre couche. Et ils vont se bagarrer entre eux. Manger la chair de Jésus, boire son sang, c'est accepter pleinement sa parole. C'est si simple que ça. Je reviendrai. Voilà ce qu'on appelle vivre de la parole. Le dernier point, et je m'arrête là. Par la parole de Dieu, nous pouvons acquérir l'héritage que Dieu nous a donné, la promesse. La Bible a dit que l'homme de bien ou la femme de bien transmet à ses petits-fils un héritage. Mais les ressources que réserve le pécheur est pour le juste. Ça, c'est par la parole qu'on l'a. Je reprends cette phrase. C'est dans Proverbes chapitre 13, verset 22. L'homme de bien ou la femme de bien transmet à ses petits-enfants un héritage. Et où est-ce qu'il trouve cet héritage? C'est que Dieu permet à ce que le pécheur amasse pour le juste. Ça, c'est une dimension que l'Église n'a pas suffisamment investie. L'œuvre de l'Évangile pêche énormément, faute de ressources. Et pourtant, nous avons des éléments là. Mais ça, avec les pasteurs, on aura l'occasion d'en parler. Deuxième élément. L'homme qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne la sagesse, issue de la parole. La science, issue de sa parole, qui est esprit et vie, et qui communique la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser, afin de donner aux justes. Enlevant tout obstacle à l'écoute. Il m'a été révélé avec force dans mon cœur que nous vivons un instant très, très, très dur. Où l'ennemi, s'il nous laisse le temps d'être exposé à la parole de Dieu, nous puissions recevoir la parole de Dieu et nous pouvons lui échapper. Il n'aura pas une maîtrise sur nous, parce que nous aurons la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner la parole de Dieu. D'abord, il va détourner la parole de Dieu et il va nous détourner de la parole du Seigneur, sous des formes diverses et variées. L'ennemi va s'arranger à ce que nous ne soyons pas exposés à la parole du Seigneur pour sauver et pour guérir. Jésus dira que vous ne voulez pas venir à moi pour écouter la parole de Dieu, pour que vous soyez pardonnés, guéris et être sauvés. Il n'y a pas une autre manière pour nous d'être sauvés que par la parole. Mes bien-aimés, je vous parle en tant que père, sur le plan spirituel. Je ne veux pas m'étaler dans une lamentation pour que vous compreniez que ce que je suis en train de vous dire vient de mes tripes. Mangez la parole du Seigneur. Dans Job chapitre 34, verset 3, « Comme le palais sait apprécier la nourriture, telles sont les oreilles, savent apprécier la parole de Dieu. » On mange la parole du Seigneur, pas avec la bouche, mais avec les oreilles. Car le temps viendra, Amos 8, 11, où les gens auront faim et soif, pas faim et soif de la nourriture, ni de boisson, parce qu'il fait chaud, mais je ferai en sorte que les hommes de la terre aient faim et soif de la parole. De la parole. Qui est la source de toutes choses. Alors, mes bien-aimés, je vous invite à revenir à l'essentiel de la parole, auprès du Seigneur. N'ayez pas à l'égard de la parole le mépris que le monde a à l'égard de la parole. Quand vous parlez de Dieu, les journalistes vous tombent dessus, les médias vous tombent dessus. Au point que nous-mêmes, nous avons honte d'afficher quelle est notre identité. On va en vacances, on ne peut même pas se dire chrétien. On se cache, on se noie dans la foule, comme les autres. J'ai fait un article de 3 pages qui est sur la table. Je vous invite harmonieusement, en sortant, en prenant au moins une feuille. Sommes-nous disciples en vacances? Ou alors, en vacances, nous restons toujours disciples de Jésus. Il y a 5 points que j'ai abordés. Et vous allez le lire. C'est le temps de rattraper les lectures. C'est le temps de rattraper la prière. Ce que j'ai échappé pendant l'année, les prédications que j'ai loupées, notre ami Daniel et les autres se sont efforcés pour avoir de support sur notre site. Prenez le temps, avec des écouteurs, même au bord de la plage, écoutez les messages de Dieu. Nous allons aborder l'année qui va venir avec Clémence, une dimension de la vie spirituelle. Parce que si ces paroles que Dieu nous a données n'est pas pour nous maintenant, à quel moment elles seraient pour nous? Parce que lorsque Jésus viendra, ces paroles ne seront plus utiles. Donc on va rentrer dans les profondeurs. Attrapez-nous lorsque nous allons nous élever. Et si vous n'avez pas de soubassement, vous n'allez pas vous appuyer dessus. Et que le Seigneur vous aide à vous élever dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.